Salut, salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Cette semaine, on va vous parler des Boston Celtics, la meilleure équipe de la NBA. Enfin meilleure, disons plutôt. L'équipe numéro 1 au classement est très largement, plus de 10 victoires d'avance sur le deuxième à l'Est, c'est colossal. Pour autant, les Celtics ne sont pas les favoris pour le titre, du moins pas les grands favoris. Alors ça peut paraître paradoxal, mais on va vous expliquer pourquoi. Et ceux qui auront cette tâche aujourd'hui s'appellent Loïc Piala, un de nos correspondants aux États-Unis. Salut Loïc.
Bonjour à tous.
Amaury Perdrio, salut Amaury.
Bonjour à toutes et à tous.
Et Geoffrey Stein, salut Geoffrey.
Salut Xavier, salut tout le monde.
Donc bienvenue à vous et début du game. Alors messieurs, Boston est numéro 1 et large numéro 1, on l'a dit, donc je propose qu'on commence par parler de ce qui va bien. Et Geoffrey, on va commencer avec toi. Est-ce que tu pourrais nous parler des qualités des Celtics ?
Bah déjà, il y a une forme de continuité et de renouvellement. Ça a été une des forces, je trouve, de ce qu'a fait Boston et du travail de Brad Stevens, qui est l'ancien coach et qui est désormais qui préside aux destinées de cette équipe dans les bureaux. Ce qu'ils ont réussi à bien faire, c'est de garder l'ossature qu'il y avait autour de Jason Tatum. Ils ont prolongé Jaylen Brown avec un contrat en or massif. Ils ont gardé à leur fort Derrick White qui est arrivé en cours de saison dernière et qui continue sa progression cette saison, on en reparlera. Et puis ils ont ajouté deux pièces qui leur manquaient, à mon sens, dans le sens où ils ont recruté Kristaps Porzingis, qui a permis d'apporter de la taille et de la dissuasion au-dessus du cercle. C'est-à-dire qu'ils avaient pas mal d'intérieur un peu sous-dimensionné. Voilà, un joueur comme Alford, c'est énormément d'intelligence défensive, mais peut-être pas la dimension athlétique que peut avoir Kristaps Porzingis. Et en Jrue Holiday, en gros, ils ont remplacé Marcus Smart par Jrue Holiday. Donc, ils ont gardé le côté défenseur élite. Mais avec Jrue Holiday, tu as quelqu'un qui a l'expérience d'un titre de champion acquis avec Milwaukee et qui a un vécu aussi, une capacité à rester à sa place, on va dire, dans le collectif, là où Marcus Smart pouvait parfois en sortir, notamment sur la partie offensive. Donc voilà, ils ont réussi à vraiment trouver des pièces qui manquaient et qui permettent d'avoir aujourd'hui surtout un 5 majeur, on en reparlera, mais un 5 majeur de très très haut niveau et hyper complémentaire.
Amaury, souvenir d'une discussion qu'on avait ensemble plus tôt dans la saison, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, t'étais pas si convaincu que ça par Porzingis ?
Bah, parce qu'on sait que le basket, en tout cas la NBA d'aujourd'hui, s'articule à nouveau pour les meilleures équipes autour de très grands, mais de très grands qui ont tendance à se rapprocher du cercle, hein, ou en tout cas qui ont tendance à être très bons près du cercle. Je pense notamment à Nikola Jokic, Joel Embiid... Giannis Antetokounmpo n'est pas un pivot proche du cercle, mais son jeu tend à l'en rapprocher. Kristaps Porzingis, c'est quand même le 5 moderne qu'on va transformer en fait en poste 4, parce que, ça c'est pareil, on le décryptera, mais Boston aime beaucoup jouer très au large, très à l'extérieur, et donc, pour utiliser effectivement la capacité de Porzingis à shooter de loin. La deuxième problématique, c'est que c'est un joueur qui se blesse souvent. Je crois qu'on est à 22 matchs ratés déjà cette saison. Je trouve que ça fait beaucoup pour un joueur dont on imagine qu'il est la pierre angulaire du changement qui doit permettre à Boston de voir plus haut que ces dernières années.
Rappelons que Porzingis, c'est de la licorne avant la licorne. Hein. C'était avant Wembanyama, un joueur de 2m22 capable de driver, de shooter à 3 points.
Mais il drive de moins en moins.
C'est vrai. Ce qui impressionne, c'est pas forcément l'attaque en soi, même si elle a des chiffres exceptionnels. Hein. On est sur 120 points. Pour 100 possessions, c'est-à-dire l'efficacité offensive, c'est un niveau qui n'avait jamais été atteint. Alors, il faut voir s'ils le tiennent jusqu'à la fin de la saison, mais on est quand même très avancé. Donc c'était un niveau qui n'était jamais atteint. Ce n'est pas non plus leur défense, même si elle est exceptionnelle. Elle est dans le top 6. Pareil, tout ce qui est efficacité, points encaissés, pourcentage adverse. C'est le mélange des deux, avec un différentiel plus vu depuis Golden State, attaque-défense. Il y a un côté saison historique. Est-ce que c'est vécu comme ça aux États-Unis, Loïc ? Est-ce qu'on parle de Boston comme une équipe, une archi-équipe, on va appeler ça comme ça ?
Pas vraiment, parce que le juge de paix, ce sera comme à chaque fois les play-offs. Mais évidemment que les stats que tu donnes, elles impressionnent, surtout que ce qu'on retient, c'est que le différentiel que tu mentionnes, les dernières équipes à avoir eu un différentiel équivalent ou supérieur, les Warriors de 2017, les Bulls de 96, les Bucks de 71 et les Lakers de 72, elles ont gagné le titre en fin de saison à chaque fois. Donc forcément, ça donne des ambitions, mais c'est pas non plus une équipe, c'est pas l'équipe qui impressionne le plus dans la ligue pour l'instant, malgré ses statistiques incroyables.
Et je voudrais juste rappeler qu'en plus de ça, si vous vous souvenez bien, la dernière équipe à avoir gagné le titre en ayant terminé première de la saison régulière, c'était les Golden State Warriors de 2015. Et à partir de 2016, ils affichent le meilleur bilan de la saison régulière historique. Et il n'y a pas de titre derrière. Donc finalement, être premier de la saison régulière, ça n'apporte aucune garantie.
Rappel très intéressant, ouais, Amaury. Et donc ce qu'on a dit dans l'introduction, c'est que ce n'est pas forcément les favoris. C'est ce que vient de dire encore Loïc. Alors qu'on vous explique pourquoi, parce que c'est vrai que ça peut paraître paradoxal. Hein. Donc le classement, je rappelle, c'est 11 victoires d'avance sur Milwaukee qu'ils ont battu la nuit précédente de l'enregistrement, hein, jeudi soir, donc le deuxième à l'Est, et 7 victoires d'avance sur, en gros, le duo, trio de tête de l'Ouest, les Denver, Minnesota, Oklahoma City. Donc en gros, ce sera la première place scratch, sauf énorme désillusion à la fin de la saison régulière et l'avantage du terrain jusqu'au bout. Pourquoi ils ne sont pas les favoris? Ben c'est assez simple. C'est pour résumer ça d'une phrase cliché, mais tellement vraie sur le coup, Boston, c'est très, très, très fort face aux faibles, voire au ventre mou. Et c'est souvent plus faible, et notamment à la fin des matchs, face aux très forts. Voilà, ben on va faire quelques stats parce qu'elles sont quand même essentielles. Contre Denver, le tenant du titre, et la deuxième équipe de l'NBA, c'est 0 victoire, 2 défaites. Oklahoma City, c'est une défaite, alors qu'ils menaient de 18 points dans le dernier quart-temps. Ils ont quand même réussi à perdre. Minnesota, ils les ont battus une fois, mais c'était sans Gobert ni Conley. Et ben bam, quand ces deux-là sont revenus, ils ont perdu à Minnesota. Les Clippers, ils leur mettent 37 points dans la vue à LA quand Leonard n'était pas là. Kawhi Leonard revient, ils se prennent un moins 19 à domicile. Quand on sait tout le côté un peu rouleau compresseur qu'ils ont par rapport aux autres, Geoffrey, ça ne peut que surprendre ça.
Ouais, c'est un vrai paradoxe chez Boston, mais en fait, ça montre bien certaines limites qu'ils ont dans leur jeu, leur incapacité parfois à exécuter dans les fins de match. En fait, on retrouve les limites qu'on a pu voir sur les dernières campagnes de play-off. C'est une équipe, Boston, qui a une grande régularité, on va dire, depuis 2016, quand ils sont vraiment revenus, ils se sont réinstallés au sommet de la conférence Est, parce qu'en gros, depuis 2016, ils ont eu l'avantage du terrain au premier tour tous les ans, sauf une fois, où ils avaient fini 7e de la conf. Et pourtant, il n'y a pas d'exploit majeur, on va dire, en play-off. Ils n'ont quasiment jamais sorti une équipe sans avoir l'avantage du terrain. La plus grosse paire qu'ils ont réussi, c'est de sortir Milwaukee en 2022, qui était alors champion en titre. Et ils étaient à l'époque menés 3-2. Ils avaient fait un super match à Milwaukee pour ramener la série à Boston. Et ils avaient roulé sur les Bucks sur le match 7. Mais c'est la vraie seule grosse perf. Alors qu'il y a des contre-perfs à côté de ça. Il y a le fait de se faire sortir par Miami la saison dernière avec l'avantage du terrain. Miami qui sortait du play-in et qui avait réussi à les éliminer en finale de conf. Pareil en 2020, ils sortent contre Miami. On voit, il y a beaucoup de contre-perfs dans ces playoffs qui montrent que Boston a des limites quand il faut exécuter dans les fins de match et que les matchs sont serrés, que c'est tendu, et on va décrypter les raisons pourquoi par la suite, mais ça vraiment, je trouve que ça n'a pas été solutionné et qu'on voit à chaque fois les mêmes problèmes qui se répètent.
Loïc, je reviens vraiment sur cette idée de paradoxe, c'est parce que Boston, c'est une culture, normalement, Boston, c'est un public. Boston, c'est aussi une continuité, c'est ce qu'avait dit Geoffrey dès le début. Boston, normalement, ça devrait être tous les ingrédients pour sembler solide sur la dernière ligne droite.
C'est effectivement surprenant, mais en même temps, cette équipe-là qui est construite autour des Jays, hein, Jason Tatum et Jason Brown, elle a déçu, Geoffrey vient de le dire depuis, j'ai failli dire Geoffrey, elle a déçu depuis plusieurs saisons. La question, c'est si ils ont appris toutes leurs erreurs, parce que c'est ce qu'a expliqué Jalen Brown, que les défaites à domicile, bah, ça renforce quelque part et ça pousse à être meilleur. Et il a dit on est déjà la meilleure équipe, mais c'est à nous aussi d'être la plus intelligente, de nous adapter mieux à nos adversaires. Et quelqu'un comme Paul Pierce, qui est quand même le dernier, enfin, qui est dans la dernière équipe de Boston à avoir gagné un titre, trouve aussi que cette équipe est plus forte que les années précédentes, qu'elle a plus d'armes, surtout. Tu parlais de Jrue Holiday, tu parlais de Porzingis. Il trouve qu'elle est beaucoup mieux armée, finalement, pour les playoffs et pour ces moments où ça va être un peu chaud. Mais comme tu l'as rappelé, on voit aussi que contre les grosses équipes, c'est un peu compliqué. Mais pour préparer le podcast, j'ai parlé avec un ami qui s'avère être un grand fan des Celtics. Lui, il est particulièrement optimiste. Et il ne voit pas une équipe capable de tenir contre Boston sur 7 matchs, en fait. Il dit oui, on a perdu des matchs contre des grosses équipes, mais sur une série, je ne vois pas comment on peut perdre.
C'est-à-dire que le côté rouleau compresseur finirait par prendre le dessus.
Voilà.
Oui, mais bon, quand il faut jouer un match 7 et le finir, s'il n'y a toujours pas cette culture de la finition d'une série, et je ne les vois pas, je ne les vois toujours pas savoir tout jouer sur un match, finalement. Aujourd'hui, je pense que c'est d'ailleurs très, très état d'esprit à l'américaine entre la scission entre saison régulière et play-off. Souvent, les joueurs américains ou les franchise players disent souvent « Oui, mais la saison régulière et les play-offs, ce n'est pas pareil. Sur une série, on n'est pas prenable. » Mais sauf que quand on arrive comme dans les Utah de Denver ou les Miami-Boston, mais quand il faut aller jouer un match 7, ça devient un match éliminatoire direct. Et comme ils n'ont pas cette culture-là, et que je pense que Boston n'a toujours pas appris à s'acculturer au fait de devoir gagner un match quand ils l'ont décidé, bah, je ne suis pas sûr que ça puisse en faire ses preuves là, sur ces play-offs encore.
Je reste avec toi, Maury. Pour finir un match en NBA, on sait comment ça fonctionne. On s'appuie souvent sur la star. Ils en ont une, s'appelle Jason Tatum.
C'est la figure de proue de cette franchise. Et on rigolait dans le podcast, mais il a les avantages de ses défauts. C'est-à-dire que quand on ne compte trop sur le même joueur, et je pense que Geoffrey se fera un plaisir d'ailleurs de parler de Jalen Brown, mais quand on attend de lui, monts et merveilles, quand on sait que dans la NBA actuelle, les équipes, les titres se fondent sur des trios, voire des quatuors, Jason Tatum a évidemment évolué au sein même de sa carrière. C'est devenu un grand joueur. C'est un joueur qu'on compare très souvent à Kobe Bryant. Mais je ne pense pas qu'il a été encore suffisamment entouré pour passer ce step-là. Je pense qu'évidemment, la finale de 2022... Elle vient montrer à quel point il est encore jeune. Hein. Et on en parlait avant aussi. Il y a eu un podcast avec JJ Redick où LeBron James parlait de Jason Tatum en rappelant à l'auditoire que n'oublions pas qu'il n'a que 25 ans et qu'à 25 ans, il a déjà quand même connu 4 finales de conf, une finale NBA. Quand lui a gagné son premier titre à 27 ou 28, Michael Jordan à 28 et Jokic à 27 ou quelque chose. Donc, lui, finalement, il a presque envie de disséminer l'idée que Jason Tatum et les Celtics ont encore un peu de temps et pas forcément besoin de gagner dès cette année.
C'est vrai qu'on parle de cette campagne 2022 où ça va jusqu'en finale. Et là où on a l'habitude chez les superstars, et notamment à ce poste d'ailier où on a vu des joueurs comme Kawhi Leonard, qui est vraiment le joueur réputé pour hausser son niveau en playoff, mais c'est pareil avec LeBron James, c'est pareil avec Kevin Durant. Jason Tatum, ses stats pour 36 minutes en 2022, c'est 5 points en moins. Et 2,5 rebonds en moins, c'est quand même important quoi, par rapport à ce qu'il produisait en saison régulière. Donc là, on se dit qu'il y a quand même un petit souci, et je pense que ce n'est pas dû qu'à lui, comme l'a dit Amaury. Je pense que le manque d'une deuxième option fiable à ses côtés se paye dans ces moments-là, parce que la défense, elle peut serrer sur lui, elle peut doubler, voire tripler. Et quand ta deuxième option, c'est un joueur comme Jalen Brown, qui ne donne vraiment pas toutes les garanties, notamment dans les fins de match, parce qu'il y a des choix très douteux, parce qu'il y a cette difficulté toujours à naviguer dans les défenses un peu resserrées avec son dribble dont beaucoup se moquent sur les réseaux sociaux et qui peut parfois en effet être très problématique. On avait vu sur le match 7 contre Miami la saison dernière, Jason Tatum se blesse en début de match, il reste sur le terrain mais il joue à 30%. Donc Jalen Brown devient l'option numéro 1 de Boston et c'est une catastrophe absolue. Il finit à 7 turnovers, 7 pertes de balles le match. Et il cloue les Celtics dans... Enfin voilà, il est l'incarnation de la défaite des Celtics à ce moment-là. Donc c'est problématique. Aujourd'hui, on a une deuxième option bis, si j'ai envie de dire, avec Kristaps Porzingis. Mais là aussi, pas de garantie. C'est 10 matchs en play-off en carrière, Kristaps Porzingis. Donc qu'est-ce qui nous dit qu'il va, lui, hausser le niveau de son équipe et son niveau individuel une fois que les play-offs vont arriver? Bah, pour l'instant, c'est très compliqué à affirmer.
Surtout qu'aucun de ces joueurs n'est un joueur qui est à l'aise dans ce qu'on appelle la fixation. Jason Tatum, c'est un joueur qui adore tirer après dribble, mais qui a parfois du mal à rentrer dedans, parce que la fixation, c'est aussi être capable d'aller dans les intervalles, quitte à ressortir. Or, Jason Tatum, ce n'est pas forcément son truc, ce n'est pas le truc de Porzingis, qui fait beaucoup de pick and roll, mais voilà, qu'en mouvement. Jalen Brown, c'est vraiment un finisseur, c'est un côté slasher, pareil, ce n'est pas un côté créateur.
C'est intéressant, juste Xavier, je te coupe, parce que du coup, j'ai la stat, ils sont 29e au drive par match. Donc c'est exactement ça, c'est qu'il n'y a personne quasiment pour pénétrer, pour aller près du cercle, pour aller provoquer des lancers. Ils sont la 23e équipe qui tire le plus de lancers en NBA. Quand on est la meilleure équipe de la Ligue, c'est très très étonnant de tirer aussi peu de lancers francs.
Oui, parce que c'est une clé pour ceux qui nous écouteraient, qui connaîtraient peut-être pas forcément la technique, les tactiques fines du basket. À partir du moment où on arrive en play-off et que les défenses se resserrent, il faut se rapprocher du cercle pour permettre de garder des pourcentages décents. Et c'est vrai que c'est ce qu'ils font peu. Loïc, eux, leur truc au Boston Celtics, c'est de tirer à 3 points. Ils le font incroyablement bien, ils en marquent, ils en tentent, mais ils en marquent aussi beaucoup plus que les autres parce qu'ils ont un excellent pourcentage. Mais s'il y a bien une chose que la NBA nous a appris, c'est que l'équipe qui marque le plus de tirs à 3 points est jamais ou quasiment jamais, sauf si elle a Stephen Curry dans ses rangs, ce qui n'est pas le cas des Boston Celtics, celle qui va gagner le titre au bout.
Oh bah, même les Warriors l'an dernier contre les Lakers en demi-finale de conférence, quand le tir se grippe un peu, quand ils n'arrivent plus à marquer à 3 points, bah, ils ont été à la peine contre les Lakers, qui, eux, ont obtenu beaucoup de lancers francs. Vous parliez de ça, et c'est vrai qu'en play-off, ça compte, et on ne voit pas trop côté Celtics qui pourra switcher, si c'est nécessaire, pour justement aller chercher ces lancers francs qui peuvent faire la différence bah, dans ces fins de match dont on parlait, quand ça devient un peu tendu. Et c'est une crainte, y compris chez les supporters, hein, qui voudraient voir leur équipe tenter plus de choses dans la raquette et pas se reposer sur les trois points parce que bah, ça va être effectivement plus dur de les tirer pendant les moments chauds en play-off. Et on n'a pas vraiment eu preuve pour l'instant que Boston peut faire ce changement quand c'est nécessaire, quoi. Donc ça fait partie des réserves sur cette équipe et du fait qui ne sont pas, comme tu le disais, favoris parce que on se demande, voilà, quand les choses vont se compliquer, est-ce qu'ils vont être capables de basculer ?
Il y a beaucoup d'exemples, hein, Amaury, cette saison, de moments où Boston était largement devant et où ça s'est écroulé. Il y a eu une défaite notamment contre Cleveland, hein, dernièrement, où ils étaient à plus de 20 points d'avance dans le dernier quart-temps et bam, ils ont perdu. Ça a failli se reproduire, hein, contre Milwaukee. Et pourtant, Milwaukee jouait sans Giannis Antetokounmpo. Alors que du côté de Boston, il n'y avait pas Holiday, mais on va dire que ce n'est pas forcément le même impact que s'il y avait Tatum ou Brown en moins.
Mais Boston est déjà... Là, pour tous les matchs qui commencent, enfin qui arrivent maintenant, Boston est déjà assuré sa place en play-off. On peut aussi voir que... C'est peut-être mental si on décroche, parce que la place en play-off, elle est assurée. Tous les matchs qui viennent maintenant, je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en servir dans l'analyse, parce qu'ils bah, ne vont peut-être pas s'accrocher pour les fins de match, parce que bah, ce n'est pas nécessaire. Bah
pour moi, il y a deux aspects que tu travailles dès maintenant, mais en fait, il y en a un, c'est pour moi un des autres défauts qu'on n'a pas abordé sur Boston, c'est son coach. C'est Joe Mazzulla, mais c'est lui qui est responsable en fait. C'est lui qui est responsable en fait des moments où ça va pas du tout, des moments où ça s'écroule, des moments où on refuse de changer la façon de jouer et de dire on va continuer nous à pilonner à trois points parce que c'est notre identité. Mais si ça marche pas, ben tant pis, on ira jusqu'au bout avec cette idée là. Ben, résultat, quand ça marche pas, ça s'écroule. Donc déjà pour moi, l'inexpérience de Joe Mazzulla risque de se payer dans les moments très chauds. Si moments très chauds il y a, donc ça c'est un vrai aspect à étudier. Et la deuxième chose, c'est que je n'identifie pas dans cette équipe, pendant les matchs, quand ça ne va pas, un leader. Toutes les équipes ont un leader vocal, quelqu'un qui est rassembleur, quelqu'un qui va pousser un coup de gueule sur le banc. On peut regarder les images des matchs qu'on veut. Je pense qu'un gagnant dans cette équipe-là ne laisserait pas son équipe se faire remonter 12-0 comme ça, sans réagir, sans gueuler. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu de tension en fait, sur ce banc des Celtics. On a presque l'impression qu'ils se laissent bercer par le fil du match. Bon, on se fait remonter, on verra ce que ça donne. Je pense que quand on a la détestation de la défaite, il y a des égos qui ressortent, mais aussi des leaders. Et je n'ai pas l'impression que c'est ce qui ressort de cette équipe depuis quelques années quand même déjà.
C'est vrai que c'est une équipe vraiment sujette au trou d'air, quoi. Il peut y avoir des moments où on a l'impression qu'il n'y a plus de lumière, plus d'image et il ne se passe rien, quoi. Et on l'avait vu l'année dernière en play-off. Quand dès le premier tour, tu perds deux matchs contre une équipe d'Atlanta qui est K1-K1, qui sort d'une saison régulière vraiment pas très belle, bah c'est quand même inquiétant sur ce que ça dit, quoi. Tu n'arrives pas à imposer ta domination, ta supériorité contre une équipe qui était vraiment l'ombre d'elle-même sur la saison régulière de la saison dernière. Et derrière, c'est mené 3-2 contre Philadelphie au tour d'après, c'est mené 3-0 contre Miami en finale de conf. Je trouve qu'on a une capacité à Boston à se compliquer la tâche qui est assez presque fascinante, quoi. Alors qu'en effet, ils ont tous les outils pour faire de très belles choses, mais on a l'impression, en effet, à la fois un manque de leadership sur le terrain et un manque de leadership sur le banc. C'est avec le cas de Joe Mazzulla qui a été propulsé là un peu par hasard après l'affaire Ime Udoka en 2022. Bah voilà, on a vraiment tous le sentiment qu'il leur manque quelque chose sur le banc pour aller loin aussi.
On a l'impression que le déclic est quand même pas très loin, Loïc, dans le sens où gagner un match 7 peut-être dans une demi-finale de conférence pourrait totalement les débloquer. Ce qui manque est très léger.
C'est vrai qu'avec le talent qui est disponible, si mentalement il y a ce petit renfort qui est fait. Et puis on, là, on n'arrête pas de parler de ce qui s'est passé avant, mais peut-être que tout ce qui s'est passé avant va les aider aussi cette saison. Encore une fois, Jalen Brown, quand il en a parlé, il était conscient de tout ce qui s'était passé, y compris de ses propres failles les saisons précédentes. Et peut-être que bah voilà, gagner enfin une série où ce sera très tendu sur le match 7 leur permettra de se dire bah, c'est bon, maintenant finalement on a atteint le niveau dont on a besoin, mais ça se joue à pas grand-chose. Alors, c'est vrai que Joe Mazzulla aussi, vous n'êtes pas les seuls à vous demander si c'est le coach de la situation, mais il y a quand même beaucoup de talent dans cette équipe. Après, est-ce que, et y a pas, quand on dit qu'ils ne sont pas favoris, il n'y a pas non plus 5 ou 6 équipes qu'on met devant eux, hein, donc ça peut totalement marcher.
D'ailleurs, je reste avec toi. Là, on en est où ? Je ne vais pas te demander de te déplacer à Las Vegas, même si bon, tu n'es pas si loin que ça, dans le fond. Mais pour nous donner les cotes, mais en gros, qui te semble l'équipe la plus appréciée en NBA actuellement des spécialistes ?
Bah, Denver, évidemment, parce que bah, c'est le champion en titre, parce qu'ils ont Jokic, parce qu'ils ont montré, eux, dans les gros matchs qu'ils avaient, en plus de Jokic, quelqu'un comme Jamal Murray qui est capable de prendre les choses en main. On parle aussi de Milwaukee, quelque part, même si évidemment il y a beaucoup de... on se dit que le duo Antetokounmpo-Lillard ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on aurait pu croire en début de saison.
Même s'il fonctionne mieux.
Même s'il fonctionne mieux. Mais parce qu'il y a Giannis qui a été MVP, parce que les Bucks ont gagné un titre. Là, dans l'émission First Things First, qui est un des nombreux talk show sport de la télé américaine, bah, dans les préférences pour le titre, Boston n'était que troisième, justement, derrière Denver et Milwaukee.
Ce qui est intéressant dans ton analyse, c'est qu'on a... En fait, j'ai presque l'impression qu'on dit de Boston qu'ils ont déjà touché leur... quasiment leur potentiel maximum, qui sont déjà à 95% de leurs possibilités ou dans ce qu'ils peuvent développer. Là où Denver, leur maximum est au-dessus de celui de Boston, et Milwaukee, dont on imagine aujourd'hui qu'ils ne peuvent que augmenter leur potentiel. Donc c'est peut-être ce qui fait qu'on les met que troisième. Mais oui, il faut quand même, malgré toutes les critiques qu'on leur fait aujourd'hui, c'est peut-être aussi le témoin de tout ce qu'on attend d'eux et donc de ce qu'on est en droit d'attendre et ce qu'ils sont en mesure de produire.
On a listé, pour l'instant, je ferai pas mal de choses. On a listé peut-être la difficulté à l'alternance, c'est-à-dire le fait que, comme c'est une équipe qui shoot énormément et qu'à un moment, il faut se rapprocher du cercle, ils ont peu de fixation. On a parlé du fait que Jason Tatum, aussi talentueux soit-il, devait encore faire ses preuves en tant que leader capable d'amener son équipe au titre. On a parlé de la jeunesse de Joe Mazzulla. On pourrait peut-être parler du banc aussi, parce que voilà, la variété des options, la capacité à faire sortir. Alors, ça ne veut pas dire que le banc n'est pas bon. Je pense que Sam Hauser, quand il a envie de marquer un 3 points, il en marque juste 10 dans la minute qui suit. Voilà, c'est plutôt pas mal. Des joueurs... Et puis en plus, c'est protéiforme, parce qu'ils peuvent mettre Jalen Brown, Jason Tatum en 2 et 3, donc sur les postes extérieurs, ou les alterner vers l'intérieur, donc se faire rentrer un Horford, un Derek White. Bref, il y a des choses à faire, mais il n'y a pas forcément énormément de longueur.
C'est ça, c'est en fait ils ont un effectif qui est construit de telle manière que on a l'impression qu'il y a plein de joueurs qui, comme tu dis, qui peuvent jouer à plusieurs postes, qui peuvent descendre d'un cran ou monter d'un cran entre le poste 1 et le poste 5. Voilà, Horford, Porzingis, ça peut jouer 4-5 les deux, Tatum ça peut jouer 3-4, Brown ça peut jouer 2-3,
Derek Holiday White, 1-2. Avec White, voilà, ou sans White.
Exactement, il y a beaucoup de combinaisons possibles, mais ces combinaisons, elles se font entre 8, 9 joueurs grand maximum
et
aujourd'hui.
Et je ne sais pas qui est le 9e.
Ouais, le 9e, ça serait, je ne sais pas, Luke Cornett ou Oshea Brissett, qui était un peu titulaire avec les blessures de ces derniers jours. Mais en effet, ouais, il y a un petit doute sur le banc, surtout que, bah, on a parlé de l'apport de Sam Hauser, qui est en effet intéressant dans son rôle, de sniper de loin, à Horford, voilà, qui est un peu la caution vétéran de ce vestiaire. Et après, il y a le cas Peyton Pritchard qui est intéressant parce que c'est vraiment quasiment la seule rotation sur les lignes arrière. Très bon joueur, on l'a vu, là, ces trois derniers matchs, il a eu pas mal de temps de jeu, là encore, du fait des blessures, et il fait des choses vraiment intéressantes. Mais c'est un joueur compliqué à faire jouer en play-off parce qu'un peu sous-dimensionné. L'année dernière, c'est 57 minutes au total sur tous les play-offs. Et c'est 57 minutes où je pense qu'il y en a 52, c'est du garbage time. Donc là, ça veut dire que cette année, on va lui donner des responsabilités sur 10, 12, 15 minutes par match sur des rencontres de play-off. C'est pas gagné qu'un petit gars comme Peyton Pritchard arrive à tirer son épingle du jeu dans ce contexte. Donc voilà, il y a vraiment des incertitudes aussi sur cette profondeur de banc. Voilà, à part Horford, tu as une grande inexpérience aussi de ce banc.
Mais je voulais quand même vous préciser une stat qui n'est pas liée au banc, qui est liée à Jason Tatum, parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Sur les 30 dernières années, il n'y a que deux équipes qui ont gagné le titre en n'ayant pas dans leur rang un MVP ou un ancien MVP. Détroit, en 2004, qui avait quand même une expression collective et défensive vraiment très, très au-delà de la moyenne. Et les Raptors de 2019, avec Kawhi Leonard, qui est justement un de ces joueurs, comme Jimmy Butler aussi, capable de monter... en pression pendant les
Et puis il avait été MVP de la finale, lui, déjà.
C'est pas forcément très encourageant pour les... Et en plus, il avait connu une finale. Mais il avait gagné aussi. Mais les Boston Celtics aussi ont disputé une finale. Mais c'est vrai que dans les statistiques qui ne sont pas très encourageantes, il y a celle-là.
Il y a aussi une chose. On a listé là pas mal de points un peu négatifs. Du moins, on va appeler ça les points de potentielle faiblesse plutôt. Il y a une chose par contre qui est dans le sens des Celtics, c'est que en gros la conférence Est, c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on imaginait, dans le sens où Joel Embiid, décevant, peut-être pas le mot. On va dire que c'est compliqué. Voilà, c'est le mot. Joel Embiid blessé, les Knicks qui montaient en puissance paraît décimé. Milwaukee, on sent que ça commence à prendre avec Doc Rivers qui a réussi à trouver une forme d'alchimie dans le duo Dame-Yanis. Mais c'est pas non plus le niveau qu'on avait imaginé. Miami, tout le monde dit, pardon, certains disent, ils vont monter en régime comme ils le font chaque année. Enfin, ça met quand même énormément de temps. Bref, ils pourraient avoir des playoffs qui, sans, je veux dire, confortables, sont du moins très accessibles.
Mais c'est exactement ce que tu dis. Je pense que la voie est dégagée, ou quasiment pavée pour la finale. Pourquoi pas ? On pourrait être quasiment déjà se positionner aujourd'hui. Mais aller jusqu'en finale en affrontant des équipes qui sont à 70% de leur niveau, est-ce que ça permet de préparer pour une équipe de la Conférence Ouest qui aura bastonné toute la saison contre les autres meilleures équipes finalement ? C'est l'éternelle question. Après, quand je regarde le bilan, c'est pas infamant. Il n'y a que 7 défaites face aux équipes de la Conférence Ouest avec 18 victoires, 19 victoires. Donc, mais effectivement, finalement, quand Loïc posait la question, moi, je trouve que la fin de saison, même qualifiée, elle est intéressante en ça. C'est justement d'avoir le temps pour préparer cette équipe dans les matchs restants à s'astreindre à rester au plus haut niveau. Et donc, les playoffs, finalement, pour Boston commencent presque maintenant.
Ouais, et puis je me méfie quand même du niveau de l'adversité dans la conférence S, parce que comme tu l'as dit, il y a pas mal d'équipes qui ont soit des blessés, soit qui peinent à monter en régime, etc. Mais Miami a un avantage psychologique, je pense, du 8 sur les Celtics, ce qui fait que même en abordant la série, s'il devait être 1-8, je pense que Boston ne serait pas hyper serein d'affronter Miami au premier tour. Et une équipe comme New York va récupérer ses joueurs. Mitchell Robinson est sur le point de revenir. Ojan Unobi, je pense qu'il sera là pour les playoffs. Et cette équipe de New York, elle est vraiment impressionnante à plein régime. Une équipe de Cleveland qui fait une très belle saison, que tu n'as pas forcément envie d'affronter sur une série en 7. Donc voilà, je pense que Boston, comme on l'a dit, ils ont vraiment une capacité à se compliquer la tâche. Et ça ne sera pas si simple de sortir de cet Est où, en fait, beaucoup d'équipes sont difficiles à lire dans le sens où elles n'ont pas de continuité. Mais il y a pas mal de talents et je trouve qu'il y a des équipes qui développent des choses collectivement très intéressantes. Donc je suis vraiment curieux de voir parce qu'ils pourraient avoir quand même un parcours compliqué. Voilà, si ça doit être Miami au premier tour et quelque chose comme New York ou Cleveland en demi-finale de conf, c'est une équipe, il faut se les coltiner. Hein.
Ouais, mais en même temps, s'il fallait chercher une motivation, une extra motivation, ce qui permet parfois de faire mettre les petites faiblesses derrière soi ou d'arriver à passer les problèmes psychologiques, comme par exemple contre Miami dont tu parlais, c'est cette idée quand même que si Boston gagne le titre cette année, ça leur permettra de repasser devant les Lakers au record de titres en NBA avec un 18e titre. Si ça, c'est pas la motivation extrême, je me demande ce qu'il faut leur donner. Et alors, il nous reste, on est quoi, en mi-mars, avril, mai, juin? Allez, on a 3 mois à attendre avant de savoir si cette émission ne valait rien ou si on était des devins par rapport à ce que va devenir Boston en cette fin de saison. Merci messieurs d'y avoir participé et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.